Vous écoutez Que dit la Bible ?
Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat, sponsorisé cette semaine par BLF Club. C'est Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast, et profitez des derniers jours afin de bénéficier du livre offert de BLF Club, un livre de Roy Esson, de l'esquisse à la réalité, sur l'épître aux Hébreux, qui revoit un petit peu comment prendre en main la réalité de la vie de Christ pour nos vies. Vous pouvez recevoir ce livre gratuitement sur blf.com/club. On vous mettra le lien dans la description du podcast. Je suis avec Guillaume cette semaine. Comment vas-tu, Guillaume ?
Eh bien, ça va très très bien, mon cher Alex, et j'espère que toi aussi.
Ah, moi aussi, surtout que Pâques approche. Et d'ailleurs, j'en profite car, comme chaque année, c'est un petit peu l'occasion pour les chrétiens de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. À vrai dire, beaucoup considèrent Pâques comme la fête la plus importante du calendrier chrétien, et avec raison, hein, parce que la résurrection du Fils de Dieu est l'événement fondateur du christianisme et la base même de notre foi. Mais c'est également sur cet événement que se focalisent les doutes de la plupart des sceptiques modernes et même de certaines dénominations chrétiennes. La question mérite donc d'être posée. Avons-nous raison d'insister sur l'historicité de la résurrection de Christ ? Et existe-t-il des éléments concrets pour appuyer cette conviction ? C'est ce que nous allons essayer de discerner ensemble à l'occasion de ce podcast. Et j'en viens à ma première question, Guillaume. Que dit exactement la Bible au sujet de la résurrection ?
Eh bien, les quatre évangiles présentent la résurrection comme un fait historique, un fait qui serait indubitable. Il rapporte que le troisième jour après la crucifixion, les disciples de Jésus ont découvert que son corps avait disparu du tombeau dans lequel il avait été placé. C'est dans les quatre évangiles, Matthieu 28, Marc 16, Luc 24, Jean 20. Donc les quatre évangiles rapportent ces faits. Laissez-moi vous citer un texte qui est issu de l'un d'entre eux, Jean chapitre 20, versets 3 à 8. Pierre et l'autre disciple, c'est Jean, on le sait par déduction, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra lui aussi et il vit. Et il crut. Très important. Déjà, notez qu'il y a deux témoins oculaires, qui sont Pierre et Jean, qui confirment que le tombeau était bien vide. Et on ajoutera aussi qu'il y avait des femmes qui avaient déjà constaté les faits auparavant quand on regarde les évangiles synoptiques. Notez ensuite qu'il n'était pas entièrement vide, ce tombeau. Il y avait ces linges qui avaient servi à embaumer Jésus et qui étaient restés au sol. Jean, qui est donc l'autre disciple mentionné dans le texte, il laisse entendre que la simple présence de ces linges l'a convaincu que Jésus était ressuscité. Et certains commentateurs estiment, je pense que ça se tient, même si c'est assez spéculatif, mais ça se tient, ils estiment que ces linges, ils auraient retenu la forme du corps de Jésus, peut-être parce que Jésus serait passé au travers, comme il est ensuite passé au travers les murs d'une pièce fermée à clé, c'est ce qu'on voit en Jean 20, verset 19 et verset 26.
Alors, que disent les penseurs athées et les sceptiques à ce sujet ?
Alors, bien évidemment, ce n'est pas un témoignage qu'ils reçoivent, et plusieurs théories sont avancées. Il y en a beaucoup, mais je vais citer les trois les plus populaires, on va dire. Il y a déjà la fameuse théorie du mauvais tombeau, qui est fort ancienne. C'est une théorie qui suggère que les femmes et les disciples auraient fait erreur en se rendant à un autre sépulcre que celui de Jésus. Mais on sait que les femmes avaient initialement suivi Joseph d'Arimathée et Nicodème au tombeau et qu'elles avaient observé comment le corps de Jésus avait été disposé à l'intérieur. Ça, les trois évangiles synoptiques nous le disent en Matthieu 27-61, en Marc 15-47, en Luc 23-55. Et donc on peut se poser la question, comment est-ce qu'elles auraient pu si facilement se tromper par la suite si elles savaient où le tombeau était et comment le corps avait été disposé ? Puis, faut le dire, le tombeau appartenait à un homme riche, membre du Sanhédrin, enfin proche du Sanhédrin, proche de Nicodème qui lui-même était proche du Sanhédrin. Et donc on peut se dire que Joseph d'Arimathée, et Nicodème, ils auraient vérifié l'état du vrai tombeau une fois qu'ils auraient entendu les premières rumeurs, par exemple, de la résurrection. Donc on comprend mal comment le tombeau aurait pu rester si longtemps mauvais près de 20 siècles après. Et puis bien sûr, il y a les autorités juives et romaines, pour qui ça aurait été une excellente nouvelle, parce qu'elles auraient très volontiers corrigé l'erreur des disciples en les menant au bon tombeau Et en leur montrant les restes du corps de Jésus, ça aurait coupé court à cette rumeur. Et donc la théorie du mauvais tombeau, bien que populaire, au final n'est pas très adéquate. Il y a aussi la théorie dite de l'évanouissement, très prisée par les penseurs musulmans. Selon cette théorie, Jésus ne serait pas mort sur la croix, mais il aurait en quelque sorte sombré dans le coma. Plus tard, après la mise au tombeau, il aurait en quelque sorte repris conscience, et puis très furtivement, il aurait quitté les lieux sans être repéré par les gardes qui étaient devant son sépulcre, et puis il aurait rejoint les disciples, et ces derniers, en le voyant, ils auraient conclu à tort qu'il était ressuscité d'entre les morts. Alors c'est une belle théorie, là encore très populaire, mais très franchement, je n'en suis pas du tout convaincu, et je crois qu'elle peine à convaincre dans les faits. Déjà, il faudrait accepter que les bourreaux qui ont crucifié Jésus auraient été de piètres exécuteurs, ce qui est peu probable, et en plus, de pas savoir exécuter convenablement, ils auraient été incapables de juger de l'état physique des personnes qu'ils crucifiaient. Pourtant, le récit de l'évangile de Jean suggère que ce n'est pas le cas parce qu'il indique des mesures qui sont spécifiques et qui ont été prises pour s'assurer que Jésus était bien mort, un passage bien connu hein, dans Jean 19, 32, 35, dans lequel ils rompent les jambes du premier brigand, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Et là, ils s'approchent de Jésus et le texte dit « Le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. » Donc le texte nous dit « Ils se sont assurés qu'il était mort. » Ils lui ont mis un coup de lance dans le côté et le fait que de l'eau et du sang soient sortis suggère qu'il était bel et bien mort. Et puis, même s'il n'était pas mort, même si il aurait réussi à feindre la mort malgré que son côté aurait été percé, eh bien cette théorie de l'évanouissement, elle nécessite que Jésus ait survécu à la douleur atroce de la crucifixion. Je vous rappelle que c'est l'un des châtiments par mort lente les plus cruels de l'histoire. Et puis à une importante perte de sang parce qu'il a été flagellé deux fois quand même avant de porter sa croix. Et la deuxième flagellation avant qu'il porte sa croix était si cruelle que souvent les condamnés à la crucifixion mouraient pendant cette flagellation. C'était même une meilleure fin pour eux que la croix, il faut le dire. Regardez Jésus, il avait du mal à porter sa croix au point qu'un dénommé Simon de Cyrène a dû la porter à sa place parce qu'il a été réquisitionné par les Romains. Il était terriblement affaibli avant même la crucifixion. Et donc, si l'on prend en considération le choc traumatique de toutes les tortures successives qu'il a subies, la faiblesse physique qui en découlait, le manque de nourriture, eh bien, ça paraît très peu probable. Il faudrait également accepter que malgré sa faiblesse, il aurait réussi à se libérer de son linceul, puis à repousser seul la grande pierre sans que la garde romaine ne s'en aperçoivent. Les femmes n'arrivaient pas à pousser la pierre. À combien plus forte raison un homme qui aurait été affaibli et amaigri aurait-il pu le faire ? Et puis, finalement, après avoir contourné tous ces obstacles, il se serait présenté aux femmes et aux disciples dans cet état de faiblesse extrême, amaigri, et en faisant ça, il aurait réussi à les convaincre qu'il est le Seigneur de la vie, qu'il est ressuscité des morts. Très franchement, ça ne tient pas la route. La théorie de l'évanouissement a trop d'arguments contraires qui empêchent de la valider comme étant viable. Alors la dernière théorie la plus populaire, c'est celle du corps volé. Elle est extrêmement populaire parce qu'elle paraît cohérente, et elle affirme que la dépouille de Jésus aurait été volée, alors soit par ses détracteurs, soit par ses disciples. Il y a deux versions de cette théorie. La première hypothèse, comme quoi il aurait été volé par ses détracteurs, ne tient pas. Parce que les ennemis de Christ, ils cherchaient à éviter précisément que s'accomplisse la résurrection, justement parce que c'était l'une des proclamations de Jésus pendant son ministère. Et c'est ce qu'on voit en Matthieu 27, versets 62 et 66. Les détracteurs de Jésus voulaient éviter la résurrection. Donc si ils avaient volé le corps, ils auraient fait précisément ce qu'ils cherchaient à éviter. Ça ne tient pas la route. Et puis même, s'ils avaient volé le corps, eh bien ils auraient été en mesure de le produire et ainsi de couper court à la proclamation des disciples. Quelques décennies après la résurrection, les responsables juifs vont se rendre à Césarée et ils vont accuser Paul devant Festus de prêcher que Jésus était vivant. Ça, c'est dans Actes 25 que c'est raconté. Le livre des Actes suggère que les juifs ne vont pas parvenir à prouver leur dire. Je vous laisse relire chez vous acte 25, notamment versets 25 à 28, mais relisez aussi la suite devant Félix lorsque le témoignage est appuyé. Regardez chapitre 26, verset 8 notamment, et les versets 30 à 32. Ils ne sont pas en capacité de prouver leurs accusations. S'ils avaient été capables de produire la dépouille, ou ne serait-ce qu'un témoin sachant où elle était située, eh bien ils auraient probablement été entendus. Mais ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'il était advenu du corps de Christ. De la même manière, c'est improbable que les disciples aient volé le corps de Christ. Comment une poignée d'hommes et de femmes qui étaient complètement apeurés, complètement désorganisés. Regardez le chapitre 20 de Jean, comment les disciples sont décrits. Comment est-ce qu'ils auraient pu tenter un tel exploit? Je ne sais pas si vous vous rendez compte que briser le sceau d'un gouverneur romain, c'était un crime majeur au 1er siècle de notre ère qui pouvait être puni de mort. Et puis même, il y a cette garde. Comment est-ce qu'on pourrait la contourner et même rouler la pierre sans être détecté? C'est ce qu'ils auraient fait en Matthieu 27, 62 à 66, si on suit cette théorie du corps volé. On peut éventuellement supputer que les soldats romains se seraient assoupis, mais l'escouade qui était chargée de surveiller le tombeau était probablement ce qu'on appelle un quaternion, un groupe de quatre hommes. D'ailleurs, on voit ces quatre hommes qui sont autour de la croix et qui se sont partagés ses vêtements en quatre. On sait que les soldats romains risquaient la peine capitale lorsqu'ils s'endormaient pendant leur garde. Et donc cette explication, elle semble hautement improbable. Il faudrait qu'ils se soient endormis en même temps. Bref, ça ne tient pas la route. Et puis enfin, l'hypothèse des disciples qui font disparaître le corps de Christ, eh bien, ça présente les disciples comme des menteurs intentionnels et déterminés. Mais ce portrait ne cadre pas avec la réalité. Les apôtres et les premiers chrétiens, à cause de cette réalité de la résurrection, à cause de leur proclamation, ils ont été confrontés à la persécution et même à la mort pour avoir prêché la résurrection de Christ. Et il n'y a aucun d'entre eux, à aucun moment, qui a avoué que c'était un canular. Les menteurs et les hypocrites ne sont pas faits de l'étoffe des martyrs. Je suis désolé, cette théorie n'est pas plus recevable que les deux précédentes, et ce n'est pas parce qu'elle est si populaire que l'on doit l'accepter. Et je crois que l'explication qui s'accorde le mieux avec les faits, c'est celle-là même qui est proposée par les apôtres, c'est que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Et pour Pierre, c'était l'accomplissement des prophéties les plus anciennes, c'est ce qu'il dit dans acte 2, versets 29 à 31, il leur dit « Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, dit Pierre, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qui l'a prévu et annoncé dans le psaume 16, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Voyons, regardez ce que dit Pierre. Pierre, il dit, regardez, on a le tombeau de David au milieu de nous, ses os sont là, tout le monde sait où est ce tombeau. Ce n'est pas à David que ce psaume fait référence. Par contre, si vous cherchez un tombeau vide, c'est bel et bien celui de Jésus. Et Pierre dit, ce tombeau vide prêche, et prêche toujours et encore aujourd'hui, la résurrection.
Alors d'accord, j'entends tout cela, mais laisse-moi me faire un petit peu l'avocat du diable dans cette question. En soi, un tombeau vide ne prouve rien en soi, si ce n'est que quelque chose est arrivé au corps de Jésus. Et si tu ne peux pas prouver cette chose, toutes les hypothèses sont ouvertes. N'est-ce pas? D'ailleurs, pourquoi l'hypothèse de la résurrection serait forcément la bonne en l'absence de preuves véritables pour la contredire?
En réalité, c'est une objection qui est techniquement recevable, mais elle ne prouve rien en soi. Je veux dire, le fait qu'il n'y ait pas d'hypothèse alternative ne veut pas dire, effectivement, que l'hypothèse que j'avance, celle de la résurrection, soit vraie. En soi, c'est recevable, mais si on n'a pas d'autres hypothèses alternatives, on cherchera la meilleure hypothèse. Mais c'est pas tout. Le fait que les textes du Nouveau Testament ne se limitent pas à l'épisode de la disparition du corps de Christ va militer dans le sens d'une hypothèse majeure et prépondérante qui serait celle de la résurrection. Et dans les faits, les textes du Nouveau Testament vont beaucoup plus loin. Le Nouveau Testament fait état d'au moins 10 apparitions de Jésus entre sa résurrection et son ascension. Il y en a 5 le jour de Pâques, il y en a 5 autres durant les 40 jours suivants, Il va apparaître à des femmes, puis à Marie-Madeleine qui était retournée au tombeau, puis ensuite à Cléopas et à un autre disciple, c'est les deux pèlerins sur la route d'Emmaüs, et puis à Pierre, à un autre moment, le même après-midi où il est apparu aux deux pèlerins sur la route d'Emmaüs, et puis enfin, il va apparaître aux disciples dans la chambre haute. Une semaine plus tard, il va se présenter à nouveau aux disciples dans la chambre haute, alors que Thomas était présent, la première fois Thomas était absent, puis il va ensuite apparaître à sept d'entre eux près de la mer de Tibériade. Et puis plus tard, il va encore apparaître aux 11 sur la montagne de Galilée, et de mon point de vue, c'est probablement à cette occasion que les fameux 500 frères à la fois qui sont mentionnés en 1 Corinthiens 15, verset 6, l'ont vu. Et puis ensuite, il est apparu à son demi-frère, Jacques, et enfin, il est apparu de nouveau aux 11 disciples à l'occasion de son ascension au ciel. Et puis si on regarde aux apparitions post-résurrection, post-ascension, il y a aussi l'apparition de Paul qui est mentionnée, notamment dans Actes chapitre 9, et que Paul mentionne à plusieurs reprises. Il la mentionne en Actes chapitre 26, puis il la mentionne en 1 Corinthiens 15. Donc, vous voyez, il y a eu plusieurs apparitions. Le Nouveau Testament nous dit 10, 11, 12 apparitions différentes. 10, si l'on regarde toute la séquence de temps qui s'étend de sa résurrection à son ascension. Donc, le Nouveau Testament enfonce le clou. Il dit « Le corps de Christ n'est plus dans le tombeau. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que Christ est ressuscité des morts. Et quelles sont les preuves ? Eh bien, les preuves, c'est qu'il a été vu.
Mais alors pourquoi les spécialistes critiques et les athées vont rejeter tous ces témoignages que tu viens de citer à l'instant ?
Eh bien, là encore, les spécialistes critiques vont avancer plusieurs théories. Et si je m'en tiens aux deux les plus populaires, ça va être plutôt la thèse d'une invention de l'Église primitive ou celle d'une hallucination collective. Donc en gros, on vous dit, les apparitions post-résurrection seraient des récits qui seraient inventés par l'Église primitive ou les apparitions post-résurrection seraient des hallucinations collectives. Regardons la première, les fameux récits inventés par l'Église primitive. Est-ce que l'Église primitive aurait inventé ces récits d'apparitions post-résurrection ? Bah, même s'il l'avait fait, il faut le dire, ça n'apporte aucune explication supplémentaire à la découverte du tombeau vide. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, si on n'a pas d'hypothèse contraire qui puisse expliquer les faits, c'est probablement que les hypothèses qu'on présente ne sont pas adéquates. Et puis, je le dirais, les textes du Nouveau Testament, ils ont été composés quand même très rapidement après les faits dont ils rendent témoignage. Pensez par exemple que la résurrection qui est décrite dans la première épître aux Corinthiens, elle aurait été décrite dans ce texte-là seulement 26 ans après les dernières apparitions post-résurrection. Alors pour nous, ça nous paraît être un laps de temps relativement long, mais en réalité, il faut bien le comprendre, Paul avait un argument clé pour convaincre ses lecteurs. Il leur dit, et il faut s'en souvenir, les Corinthiens niaient la résurrection, il leur dit « Regardez, ceux qui ont vu Jésus ressuscité sont encore en vie, les fameux 500 frères à la fois », 1 Corinthiens chapitre 15 verset 6. Il leur dit en quelque sorte « Mais allez vérifier vous-même, et si vous ne me croyez pas que Jésus est ressuscité, allez demander à ses témoins, ils étaient 500. Comment 500 personnes en même temps pourraient-elles vous mentir ?» Voilà l'argument de Paul. Donc cette proximité milite en faveur de la véracité de ces textes. Comment dans un tel contexte, d'ailleurs, aurait-il été possible de forger autant de récits fictifs qui au final seraient imbriqués les uns dans les autres ? Ça paraît improbable, une conspiration paraît improbable. D'autre part, si les textes relatifs à la résurrection ne sont qu'une construction littéraire sans fondement historique, pourquoi est-ce qu'ils auraient choisi des femmes comme premiers témoins de la résurrection ? On faisait bien peu de cas du témoignage d'une femme au 1er siècle de notre ère, et Flavius Joseph mentionne même que le témoignage des femmes ne pouvait pas être retenu en procès. Vous avez N.T. Wright, qui est l'un des meilleurs spécialistes de la résurrection du Nouveau Testament, qui soutient que l'idée de la résurrection corporelle d'un individu qui aurait précédé celle de tous les autres, autrement dit la résurrection de Christ avant la résurrection des autres individus, eh bien c'était une idée qui était étrangère au judaïsme du 1er siècle. Si tel est le cas, très franchement, c'est profondément improbable que les premiers chrétiens aient imaginé une telle chose dans le but de faire perdurer je ne sais quel engouement pour Jésus après la mort de son fondateur. Donc tout semble indiquer que les évangiles rapportent un récit qui est basé sur des témoignages oculaires, Alex. Maintenant, si on regarde les apparitions post-résurrection et qu'on les considère comme des hallucinations ou des visions subjectives, c'est un une vieille théorie. L'une des défenses les plus récentes, enfin les plus récentes, les plus influentes récemment, c'est celle de Michael Golder, qui a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il était un professeur de Nouveau Testament. Et son idée, c'est que Pierre aurait parlé aux autres disciples d'une expérience de vision subjective qu'il aurait eue le matin de Pâques, parce qu'il était tellement confiant qu'il verrait un jour le Christ ressuscité que finalement il a fini par le voir. Et pour Golder, l'hystérie qui était si puissante au sein d'une petite communauté les a amenés à penser que le Seigneur, à un moment donné, serait venu à eux au travers de la porte verrouillée puis serait reparti. Et pour Golder, eh bien, l'expérience subjective de Pâques, elle aurait tout simplement façonné la croyance collective en la résurrection et aurait finalement constitué l'élément déclencheur qui aurait conduit au dogme de la divinité de Jésus parce que, selon lui, là encore, initialement, il n'en aurait pas toujours été ainsi. Comprenez bien hein, ce que dit Golder ici. Il dit que les apparitions du Christ ressuscité n'auraient jamais eu d'existence réelle et qu'en fait, ça serait une forme d'hallucination collective créée par une puissante autosuggestion collective. Mais là encore, plusieurs détails mentionnés dans les évangiles font que cette explication, elle est difficilement soutenable et ce que donnent les évangiles comme point de détail souligne l'objectivité du témoignage des disciples. Par exemple, lorsque vous avez ces deux apparitions dans la chambre haute et qu'on les compare l'un avec l'autre, dans les deux cas, Jésus montre ses mains et ses pieds et son côté à ses disciples. Il les encourage même à toucher s'ils le souhaitent. Regardez dans Luc 24, versets 37 à 39. Et regardez ce qu'il dit à Thomas lors de la deuxième apparition, Jean 20, versets 27-28. Il lui dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Souvenez-vous que Thomas avait dit expressément « Si je ne peux pas toucher, si je ne vois pas de mes yeux, je ne croirai pas. » Un sceptique avant l'heure. Et Thomas peut toucher, peut mettre sa main dans son côté et il tombe et il dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Plus tard, lorsque Jésus va apparaître aux disciples près de la mer de Tibériade, c'est la mer de Galilée en fait, hein, il s'assoit, il déjeune avec eux et en agissant ainsi, apparemment, il veut les rassurer quant au fait qu'il n'est pas un fantôme, qu'il n'est pas une hallucination, qu'ils ne sont pas en train de rêver. Oui, c'est bien Jésus. Oui, il est bien ressuscité. Et ce qui est le plus marquant à mes yeux, c'est que les apparitions de Jésus ne sont pas des faits isolés. Elles sont nombreuses, on en a cité une dizaine dans cette séquence courte entre la résurrection et l'ascension, mais en plus elles sont extrêmement variées. Laissez-moi vous lire un court extrait du livre de Peter Williams qui est sorti en 2020, un excellent livre, « Les évangiles sont-ils fiables ?» Regardez ce qu'il dit. « Nous soutenons l'idée qu'un grand nombre de personnes ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité, non seulement d'après les récits des évangiles qui se concentrent sur la visite des femmes au tombeau, même si le témoignage d'une femme n'était pas légalement valable, on l'a dit tout à l'heure, mais également d'après la grande quantité d'apparitions du ressuscité mentionnées dans le Nouveau Testament. » Écoutez bien, on trouve des mentions de ces apparitions en Judée, en Galilée, en ville, à la campagne, à l'intérieur, à l'extérieur, le matin, le soir, à un moment convenu ou à l'improviste, de près, de loin, sur une colline et près d'un lac, à des groupes d'hommes et à des groupes de femmes, et à des individus et à des groupes comptant jusqu'à 500 personnes, assis, debout, marchant, à table et toujours en train de parler. Un grand nombre de ces apparitions sont des conversations en tête-à-tête. Il est difficile, dit Peter Williams, d'imaginer un schéma d'apparition dans les évangiles et les premières épîtres, sans de nombreux individus ayant affirmé avoir vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Si jamais une telle construction littéraire avait été aussi élaborée, ça serait un fait unique au premier siècle de notre ère. Il n'y a aucun équivalent en termes de fidélité et en termes de précision des descriptions dans la littérature antique. Dans tous les cas, donc, et contrairement à ce que Golder affirme, la confiance extrême et l'hystérie qui aurait pu donner naissance à de telles hallucinations, eh bien, elles sont totalement absentes des récits évangéliques. Déjà, si les femmes sont venues au tombeau et qu'elles ont constaté l'absence de Christ, eh bien, c'est parce qu'elles apportaient des aromates. Et pourquoi est-ce qu'elles apportaient des aromates? Eh bien, parce qu'elles s'attendaient à ce que Jésus soit mort, pas à ce qu'il soit encore en vie. Pareil, les disciples vont recevoir avec beaucoup de scepticisme la nouvelle de sa résurrection. Ils étaient d'ailleurs plutôt terrassés par la déception, le découragement et le désespoir. Et c'est là mon dernier argument. L'un des arguments qui me conduit à penser qu'ils voyaient tous la résurrection comme un fait historique, c'est que cette réalité factuelle de la résurrection, c'est elle qui va les animer d'un nouveau zèle, qui va les remplir de confiance et d'espérance. Vous terminez les évangiles, les disciples sont terrassés, enfermés dans la chambre haute qu'ils ont barrée à double tour, et ils ne veulent plus sortir, ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être crucifiés. Mais au début du livre des Actes, tu les retrouves complètement, complètement transcendés. Ils ont désormais conscience que la nouvelle de la résurrection corporelle de Jésus n'est pas une fake news, mais que de nombreux éléments viennent l'étayer. Et laissez-moi juste vous lire le rapport que Luc en fait en acte 1, verset 3. Il dit « Après que Jésus ait souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. » L'idée des preuves qui est mentionnée ici, les tekmerion, eh bien, ça désigne un fait ou un ensemble de faits qui sont propres à fonder une conviction de manière décisive. C'est un terme très important parce qu'au 1er siècle de notre ère, c'était le terme qui était utilisé pour qualifier le plus haut niveau de preuve juridique. Or, Luc est connu pour son affection pour les termes légaux, elle est notée par de nombreux commentateurs, et cela suggère donc que les disciples étaient convaincus non pas par une expérience subjective, mais, je dirais, par des faits indubitables.
Donc, Guillaume, est-ce que tu es comme Luc, pleinement convaincu ?
Oui, plus que jamais, mon cher Alex. Lorsque l'ensemble de ces éléments sont pris en considération, l'explication qui est à la fois la plus simple, il faut le dire, la plus simple et la plus cohérente, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Aucune théorie alternative, si élaborée soit-elle, ne semble faire le poids. Les évangiles et les sources extra-bibliques témoignent d'un faisceau d'indices qui ne peuvent pas être le fruit d'une conspiration ou de circonstances fortuites. Et je vous cite une dernière fois Peter Williams, je vous recommande son excellent livre. Il écrit « Les récits sur le tombeau vide et sur les apparitions ne parlaient pas d'une personne choisie au hasard, mais d'un individu que tous s'accordent à qualifier d'exceptionnel. On lui attribue plus de miracles qu'à aucun autre rabbin. La première version de la formulation positive de la règle d'or, des histoires extrêmement populaires, une lignée remontant au roi David, l'appartenance à un groupe ethnique sans doute le plus remarquable du monde. » Et il semble avoir été exécuté par les Romains pour avoir prétendu être le roi des Juifs et être mort, même selon des sources non chrétiennes, à l'époque précise de la Pâque, époque où les Juifs célébraient leur libération par excellence, celle d'Égypte. On pourrait ajouter d'autres circonstances apparemment fortuites. Cependant, dit Peter Williams, il arrive un moment où, au lieu de penser que les miracles attribués à Jésus ne font que sabouter les rouages de la mécanique bien huilée de l'univers, on commence à penser qu'en fait, il forme un schéma. Il est possible de s'efforcer d'expliquer chaque phénomène séparément, mais une explication simple et unique peut expliquer la totalité des faits. Et l'expression et l'explication la plus simple de ce qui s'est passé au 1er siècle avec ce tombeau vide, eh bien, c'est l'explication de la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Et je crois, Alex, qu'en cette période de Pâques, cette explication si simple et si puissante devrait nous remplir de joie. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.
Amen, merci beaucoup Guillaume. Je pense que tout est dit. En répondant à cette question, avons-nous raison d'insister sur l'historicité de la résurrection de Jésus ? Bien sûr, puisqu'il est ressuscité, ça change nos vies, ça transforme notre espérance éternelle et il ne vient pas juste nous délivrer ponctuellement d'un pharaon, comme à l'époque il pouvait célébrer ça par rapport à l'Égypte, mais il vient de nous délivrer du poids de nos fautes et d'une souffrance éternelle sans lui. Merci encore, c'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger votre livre offert, de l'esquisse à la réalité. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.